Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, intriga, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors, bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Flavie a toujours rêvé de devenir maman de 2 enfants. Mais comme on le sait, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Malheureusement pour Flavie, son parcours vers la maternité commence avec la leucémie de son petit ami. Alors avant de démarrer sa chimio, il doit faire un prélèvement de sperme et Flavie sait à ce moment-là qu'elle devra passer par la médecine pour avoir un enfant. Pendant 4 ans, le projet est mis entre parenthèses et après la rémission, le couple se marie et entre en parcours de FIV. Après plusieurs essais, Flavie tombe finalement enceinte et vit une grossesse plutôt simple jusqu'à ce que les médecins détectent une malformation au cœur de son bébé. Il faudra donc prévoir une opération à la naissance pour soigner cette cardiopathie. L'opération est programmée quelques jours après l'accouchement, l'attente est longue et sa petite fille ne reviendra pas à la vie. Flavie devient maman et doit reprendre son quotidien malgré la douleur. Son envie d'avoir un bébé est toujours là, plus forte que tout, alors elle retourne en parcours de PMA, mais pour le moment sans succès. Bonne écoute.
Bonjour Flavie.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Eh bien, avec grand plaisir, merci pour l'invitation.
On va repartir au tout début, si tu veux bien, déjà de savoir, toi, quand tu étais plus jeune, quel regard tu portais sur la maternité, sur ton futur toi. Est-ce que tu as toujours envisagé de devenir mère ou pas du tout?
Ah ben alors ça, depuis toute petite, j'adorais jouer à la poupée Barbie, tu vois. Et c'était vraiment, moi je suis une fille très... princesse, tu vois, avoir une vie comme dans les films, donc le prince charmant, et toujours rêver d'avoir 2 enfants. Voilà, c'est depuis petite, enfin, je sais pas, j'ai été très formatée là-dessus, ou dans toute ma famille d'ailleurs, c'est voilà, le couple, on se marie, après on a des enfants, on a la maison, et ça a toujours été mon rêve, mais sans me poser des questions plus que ça en fait.
En tout cas, c'était 2 enfants.
Oui, 2 enfants. Bah, je pense aussi parce que dans... En fait, j'ai un petit frère. Donc, du coup, on était 2. Garçon-fille. Donc, c'est vrai que ça a toujours été le truc, bah, le rêve. Garçon-fille. Et puis, voilà, quoi.
Et alors, tu t'es mise en couple avec ton chéri. Et à quel moment vous avez abordé le sujet de la parentalité?
Oh là, bah, ça, c'était, je pense, assez dès le début. Bon, on était jeunes, hein. J'avais 17 ans, il avait 20 ans, mais c'est vrai que quand on s'est mis ensemble, c'était déjà bah, un jour on va se marier, un jour on aura des enfants. Voilà, le truc basique, quoi. Il était OK lui aussi. On réfléchissait déjà à des petits prénoms. Enfin, bon, voilà, le truc un peu quand on est amoureux au démarrage, quoi. Mmh. Donc oui, on s'était dit, bah, plus tard, on était en études tous les deux, enfin... On se prenait pas la tête, on savait qu'un jour il me demanderait en mariage et puis ça viendrait après, quoi. Enfin, le truc tout à fait naturel.
Et alors, comment ça s'est passé?
Ben, ça se passe jamais comme prévu, hein. Donc, on s'est rencontrés jeunes, on a vécu une relation longue distance par rapport aux études, tout simplement. Moi, j'étais à Tours et lui à Orléans. Et du coup, on s'est installés ensemble. Ça faisait, oula, déjà 6 ans qu'on était ensemble. Donc, on avait vraiment vécu longtemps, on va dire, séparés. Ben, moi, j'ai eu mon premier travail. Lui, il était encore en école d'ingé. Alors que moi, j'avais fait un bac plus 2-3. Donc, du coup, j'ai eu mon travail en premier. Ben, en fait, du jour au lendemain, on a appris qu'il était malade. Donc, il avait 25 ans. Et on a appris qu'il avait une leucémie, en fait. Mais genre foudroyante. du jour au lendemain, voilà, était très fatiguée depuis quelques temps. Et bon, et ce qui me paraissait bizarre, c'est que la nuit, il transpirait de fou. On était obligé de changer les draps dans la nuit. Trop bizarre. Et bon, il est allé voir le médecin, genre, il était pas très bien, quoi. Puis ben, le médecin, il a dit oui, bon, ça doit être une rhinopharyngite, le truc un peu de base. Il lui a fait une petite prise de sang, truc de base. Et là, grosse catastrophe, en fait. Il s'est avéré que, bah, du coup, il avait donc un cancer du sang, donc la leucémie. Et on l'a appris un vendredi. Le lundi, il rentrait déjà à l'hôpital direct pour commencer la chimio, quoi. C'était assez fou.
Ouais, il fallait prendre ça toute urgence.
Bah, en fait, on nous a dit, après coup, que, en gros, ça devait faire maximum un mois que ça s'était déclaré. Et que, en gros, il avait, dans 3 semaines, il aurait pu être là, quoi, si on n'avait rien fait. C'était vraiment quelque chose de, voilà, hyper foudroyant. Donc, ça a mis un peu toute notre vie complètement, enfin, ça a tout chamboulé. Donc, bah, il a été suivi, du coup, à Orléans avec ses parents. Et il vivait encore chez ses parents à ce moment-là. Donc, moi, j'étais juste sa petite copine. Donc, c'est pas évident quand on vit ça bon, à distance, plus le fait que bah, nous, on n'est que la petite copine. Donc, c'est vrai que bah, c'est les parents principalement qui sont là pour lui. Donc, ça, c'était en 2008. On s'est connus en 2005. Ça, c'était en 2008. Ouais, donc, tu vois, il avait 23 ans même. C'était jeune. Et heureusement, les médecins ont pensé, en fait, dès le début, même s'il avait déjà eu 2-3 jours de chimio, à congeler son sperme.
D'accord.
Parce qu'il faut savoir que les traitements de chimio et après les rayons, en fait, la radiothérapie, font que ça rend stérile, du coup, hommes et femmes. Donc, heureusement, il a pu voilà, faire une récolte et congeler son sperme suffisamment. Donc, c'est vrai qu'au niveau voilà, bébé, on a su que bon, ça ne gênerait pas pour avoir un enfant vu qu'on congelait. Mais bon, on serait obligé de passer du coup par la médecine.
Comment tu prends cette nouvelle, toi ?
Ben, en fait, sur le coup, moi, j'ai tellement peur qu'il meure, en fait, que en soi, avoir un bébé, c'est pas du tout la priorité. Et puis, ben moi, je suis technicienne de laboratoire, donc j'ai fait des études de biologie. Lui aussi, à la base, il a fait un bac S, des études de biologie. Donc, en fait, ce qu'on appelle la PMA, donc procréation médicalement assistée, pour nous, c'est... On sait ce que c'est. Enfin, en soi, c'est le problème, du coup, c'est... Il n'y a pas de problème pour avoir un bébé. C'est juste que comme c'est congelé, on sera obligé de passer par un médecin pour bah, les mettre ensemble et après dans mon ventre, quoi. Donc, pour moi, genre, le jour où on va se décider, ça va être hyper simple.
OK.
Donc, ce n'était pas du tout la priorité au démarrage. On savait qu'on avait dû congeler. On s'était dit, bon, bah, OK, on passera par la médecine, mais bon, ce n'est pas trop grave. Tant qu'on peut encore, c'est bon, quoi. Et donc, du coup, bon, bah, on a suivi les années où bah, il a dû avoir une greffe de moelle osseuse pour guérir de sa leucémie. Et malheureusement, en fait, pendant qu'il était à l'hôpital, donc en chambre stérile, où vraiment, il était très, très faible, il a eu une infection nosocomiale. Donc, du coup, il y a une bactérie qui s'est logée dans son corps et notamment dans les têtes de fémur, donc dans les hanches. Donc, ils ont dû, en fait, lui retirer les têtes de fémur pour mettre au départ des fausses prothèses de hanche avec du médicament à l'intérieur. Bon, j'essaye de faire simple parce que c'était à l'époque, c'était un peu compliqué. Parce qu'en fait, tant qu'il n'était pas guéri de la leucémie, on ne pouvait pas lui mettre de prothèse de hanche parce que sinon, ça risquait le corps de rejeter les prothèses. Donc, on a dû attendre qu'il ait sa greffe de moelle. On a eu énormément de chance qu'il ait eu une greffe de moelle osseuse par un donneur anonyme, qu'il est maintenant en rémission. Tout ça, ça s'est très bien passé. Mais bon, du coup, pendant 3 ans, en gros, il a été en fauteuil roulant parce que ces fameuses fausses prothèses de hanche, elles étaient très, très fragiles. Donc, il ne devait pas marcher. Il fallait qu'il se déplace au maximum en fauteuil roulant ou en déambulateur dans la maison parce que bah, la maison de ses parents n'était pas du tout adaptée, quoi. Enfin bon, donc ça a été tout un bins. Et presque le fauteuil roulant a été en fait plus pénible que la leucémie.
Ah oui.
Parce que finalement, bon, après lui dirait peut-être l'inverse, évidemment, mais moi, vu en tant qu'aidant, on va dire, et proche, c'est vrai que la leucémie, bon, bah, voilà, il a eu ses cures de chimio, les, bon, voilà, perte de cheveux, enfin, bon, la totale quand on a, comme quand on a un cancer, hein. Mais comme il a eu la greffe de moelle, on va dire, assez rapidement, ça a permis que, bah, après, il était soigné, donc il fallait juste qu'il reprenne un peu de poids, de forme, tout ça. Mais en gros, il était sauvé, quoi. Donc, alors que le fauteuil roulant, ça a été au quotidien un peu galère quand même. Il était en études, donc il a dû reprendre les cours avec le fauteuil. On s'est installés ensemble. Il était en fauteuil, donc j'étais un appart à l'étage. On s'est pris notre premier appart tous les deux au rez-de-chaussée. Et du coup, il est parti de chez papa-maman alors qu'il était en fauteuil, quoi. Donc, c'était un démarrage un peu particulier. Mais bon, nous, on était les plus heureux parce que voilà, il était en vie. On savait que c'était temporaire. Par contre, en gros, j'ai plus eu peur du fait qu'il soit en fauteuil roulant toute sa vie que du fait qu'on n'ait pas d'enfant, par exemple. Donc, bon, au bout d'un moment, du coup, qu'il était voilà, en forme et bien au niveau santé, il a pu du coup avoir ses deux prothèses de hanche. Donc, actuellement, il a 35 ans, mais voilà, on dirait un petit papy qui a déjà ses prothèses de hanche. Mais bon, il marche, il est en bonne santé, donc franchement, c'est le principal, quoi.
Donc, ça a pris combien de temps, tout ça, entre le moment où il y a la découverte de la leucémie et le moment où bah, il reprend du poil de la bête et que vous pouvez envisager de construire une famille ?
Eh bah, bien, 4 ans. 4 ans, donc 2008 à 2012. En fait, en 2012, du coup, tout ça, c'était un peu derrière lui. Il a été un an en centre de rééducation pour réapprendre à marcher parce que 3 ans en fauteuil roulant, ça laisse des séquelles. Donc du coup, pendant le fait qu'il apprenait à marcher, on a fait un voyage et là, il m'a demandé en mariage. Ça y est, là, on commençait à avancer dans la vie, on va dire. Donc, pour la petite anecdote, d'habitude, les garçons se mettent à genoux, on va dire, pour faire leur demande. Bon, bah moi, du coup, il s'est mis debout, quoi. Voilà, ça a été un peu l'inverse, mais c'était très symbolique. Et donc, du coup, il m'a fait sa demande en 2012. Et un an après, bah, on s'est mariés. Donc, une fois qu'il savait voilà, bien remarcher et qu'il pouvait danser le jour de son mariage. Et dès qu'on s'est mariés, du coup, c'était en septembre 2013, bah, du coup, on s'est dit, bon, bah, go ! Pourquoi, là, on ne lancerait pas un peu les démarches ? Mais alors là, par contre, c'est vrai que là, c'est le flou. Parce qu'on s'est toujours dit, ben bah, oui, on passera par la médecine, mais là, du jour au lendemain, on se dit, mais comment on fait, du coup ? Surtout qu'on avait déménagé à l'autre bout de la France. Donc, on va dire, son sperme congé était à Tours et nous, on venait de déménager à Toulouse. Donc, on a dû, bah, on a fait plouf plouf Google, centre de PMA Toulouse. Et puis, bah, on a pris un rendez-vous pour savoir bah, comment ça marchait. Et c'est vrai que sur le coup, tu crois qu'en fait, le mois d'après, c'est parti, quoi. T'es un peu sur ton nuage, hein. Donc là, déjà, première étape, fallait rapporter, du coup, les paillettes, on appelle ça, les paillettes, du coup, sur Toulouse. Donc, je ne te dis pas l'expédition de partir avec ta petite boîte d'azote liquide, aller chercher ça à l'autre bout de la France.
Parce qu'ils ne peuvent pas l'envoyer.
Mais en fait, non, c'est à toi de te débrouiller, de faire l'aller-retour. Et donc, du coup, on n'a pris que la moitié parce que moi, j'avais qu'une peur. C'était que, bah, genre, on ait un accident de voiture, le truc, il se renverse. Tu ne peux plus avoir d'enfant. Enfin, non, mais le stress total, quoi.
Parce que là, quand il a fait congeler son sperme, est-ce que on vous a donné un ordre d'idée de tentative possible avec ce sperme-là ?
Ah, pas du tout. Non, non. On nous a dit que voilà, il y avait suffisamment. Il avait fait 2 recueils et on savait qu'on avait 19 paillettes. Mais en soi, voilà, on nous avait juste dit, ben, enfin, c'est large.
Ok.
Mais c'est vrai que du coup, on savait pas plus que ça, quoi. Donc, du coup, bah, après, voilà, on a fait bah, plusieurs rendez-vous au centre PMA pour bah, faire quelques prises de sang, refaire un spermogramme au cas où, si jamais c'était revenu. Mais bon, non, pas du tout. Hein. Il avait 0 spermatozoïde. Hein. Franchement, c'est vrai que sur le coup, moi, je pensais que ça allait se faire très vite parce que du coup, en fait, on n'avait aucun problème. C'était juste, bah, on était obligé de passer par ça pour avoir un bébé, quoi. Et en fait, ça a mis un an de rendez-vous. Ça a été hyper long parce qu'en fait, entre chaque rendez-vous, bah, il y a 3 mois de délai. Donc, tu vois la gynéco, tu la revois après des examens, tu vois l'andrologue, donc pour les garçons, tu vois une psy, tu vois le biologiste. Et là, il te donne enfin l'accord comme quoi tu peux commencer à faire des fécondations in vitro. Du coup, nous, on est passé directement en fécondation in vitro et pas en insémination parce que quand même, les paillettes n'étaient pas de top qualité.
D'accord.
Donc, il n'y en avait pas assez. En fait, sur 2 recueils, ils l'ont divisé donc, en 19 morceaux. Donc, ça fait 19 paillettes, mais dans chaque paillette, il n'y a pas assez de spermatozoïdes pour faire vraiment une insémination. Il en faut, je ne sais pas combien de millions, enfin voilà. Donc, du coup, on est passé directement en fécondation in vitro. Et en fait, il faut savoir qu'une paillette égale une fécondation in vitro. Ah, donc, on est très large, en effet. Donc, c'est vrai que ça rassure sur le coup de se dire qu'on peut quand même essayer plein de fois.
Vous vous renseignez à fond, vous laissez un petit peu porter, guider sur tout le parcours ou comment ça se passe au, ah bah au
on
début
se laisse complètement guider, hein, parce que finalement on fait un premier rendez-vous, on nous dit bon bah voilà vous faites tel examen et vous reprenez rendez-vous. Au rendez-vous d'après, on nous donne l'étape d'après. En fait, je sais pas du tout comment tout va se passer. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur Internet. On est encore là, on est en 2014, je crois, et on est encore à l'époque des forums sur Internet. Il n'y a pas Instagram, Facebook, c'est encore bon, pas trop ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de renseignements. On est un peu livré à nous-mêmes et je ne connais personne dans mon entourage qui est passé par ça. Je suis un peu dans les premières de mes amies à essayer de tomber enceinte. Et puis, au début, c'est secret, quoi. On veut le garder pour nous, faire la surprise à tout le monde. Donc, bah, en fait, on n'en parle pas. Donc voilà, donc on se laisse guider et puis on fait donc la première FIV fin 2015. Et il faudra qu'on fasse quand même 3 FIV pour que enfin un jour ça marche.
Alors attends, parce donc, que toi tu disais que justement tu pensais que la première FIV en fait ça allait fonctionner. Comment tu vis ce premier échec?
Alors c'est vrai que pour moi, dès le début ça allait marcher quoi. Le premier truc, ça allait prendre. Donc la première, on y croit tellement à fond. En plus, avec les médicaments, on a des symptômes de grossesse, mais on a les seins énormes, on est fatigué, on a des nausées. Enfin, on y croit vraiment beaucoup. Et là, quand on voit que c'est négatif, ben là, franchement, ça a été le choc, en fait. Parce que là, je me suis dit, ah, en fait, ça va peut-être être plus compliqué que prévu.
Et t'avais dit qu'il y aurait une possibilité que ça ne fonctionne pas ou
Ben, ils ne sont pas rentrés trop dans ça. C'est-à-dire qu'ils étaient très positifs pour nous, à nous dire que, bah, en gros, on n'avait pas de problème particulier, pas d'endométriose, pas de SOPK pour celles qui connaissent, enfin voilà, des choses très connues au niveau de pathologie. C'est juste qu'il fallait les mettre ensemble. Donc, en gros, ça pouvait vraiment marcher du premier coup. Donc, non, j'étais pas prête à ce que ça marche pas, j'avoue. C'était assez compliqué. Hein. Ah, mais bon. Après, on se dit, bon, allez, le premier, c'était le test, histoire de voir un petit peu comment ça se passe. Donc, on a recommencé, mais c'est vrai que ça a été très long, en fait.
Et tu payais pour ça ou pas?
Parce que, non, en France, du coup, pour faire un petit résumé, on a le droit à 4 fécondations in vitro remboursées par la Sécurité sociale. Et c'est 4 FIV par enfant. Donc, à chaque fois qu'on a un enfant, on a le droit de avoir 4 tentatives. Donc non, on débourse rien, les médicaments c'est remboursé. Et moi, j'avais la chance d'être dans un CHU, donc du coup, j'avais pas de dépassement d'honoraires. Enfin voilà, ce qui m'a coûté des sous, ça va être toutes les médecines douces à côté, acupuncteur, des choses comme ça que moi, j'ai fait de mon côté pour me sentir mieux. Mais après, non, c'est en France, c'est bien. On a beaucoup de chance d'avoir ça. Et donc du coup, une fécondation in vitro peut donner plusieurs embryons. Donc, moi, j'avais la chance de faire à peu près 3 à 4 embryons par FIV. Donc, ce qui fait qu'en fait, un essai de FIV, c'est tous les transferts d'embryons. Donc, en fait, si je fais 3 embryons, ça me fait 3 tentatives pour une seule FIV. Donc, en fait, on peut avoir vraiment en fonction de chacune. Il y en a qui ont 10 embryons, il y en a, ils en ont un, voire pas. Enfin, voilà, ça augmente les chances en plus. Donc voilà, donc bah après bah on a enchaîné. Sur la première FIV, j'avais 3 embryons. La deuxième FIV, encore 3. Et sur la troisième FIV, j'en ai eu 4. Donc c'est lors de la troisième FIV, le tout premier embryon, où là ça a marché. Donc ça faisait 2 ans qu'on était vraiment en train de faire des essais, quoi. Donc c'est assez long parce que quand tu crois dès le début que ça va marcher dès le premier coup, 2 ans après, tu fatigues beaucoup, vraiment.
Et donc là, ça fonctionne, tu te dis...
Ben là, en plus, j'ai été hospitalisée parce que j'ai trop réagi aux médicaments. J'ai fait une hyperstimulation, donc du coup, j'ai été hospitalisée pendant 1 semaine parce que j'avais le ventre hyper gonflé, il y a du liquide qui commençait à s'échapper, en fait. Enfin, ça faisait un épanchement, on dit ça, et ça commençait à remonter dans les poumons. Donc là, ils hospitalisent pour surveiller. Et du coup, donc, j'ai su que j'étais enceinte à l'hôpital. Quand on fait le transfert d'embryon, en fait, c'est 14 jours après, on fait la prise de sang. Et ils n'ont pas voulu me le faire avant à l'hôpital. Ils ont voulu attendre vraiment pile la date. C'était un peu abusé, mais bon. Et là, j'ai eu un super taux de bêta-HCG, du coup. En fait, on ne fait même pas de test pipi. C'est-à-dire que comparé à des gens qui vont essayer naturellement, où on fait des tests pipi quand on a des retards de règles, bah là, il n'y a même pas de surprise, quoi, en fait. C'est directement une prise de sang qui vous dit si oui ou non vous êtes enceinte, quoi. Donc là, tu ne réalises pas trop, en fait, parce que tu n'as toujours eu que des négatifs. Et là, d'un seul coup, là, tu as un vrai positif. Hein, parce que j'avais eu des toutes petites accroches, mais de rien du tout. Enfin, c'était des faux démarrages, quoi, on va dire. Donc là, ouais, c'est magique, en fait, envie de le crier sur tous les toits. Qu'enfin, ça a marché. C'est assez dingue, quoi. Et c'est vrai qu'on nous dit souvent d'attendre les 3 mois pour le dire aux proches. Mais tu l'as tellement attendu depuis longtemps que tu as envie de le crier sur tous les toits. Donc, on n'a pas attendu les 3 mois parce que je suis tombée enceinte en gros mi-octobre. Et 2 mois après, c'était mes 30 ans. Donc, j'ai mes parents qui m'ont fait la surprise de venir à Toulouse nous voir. Et du coup, on leur a annoncé, voilà, ça faisait à peine 2 mois. Mon frère, je crois que je l'ai appelé le jour même que j'ai appris. Enfin, voilà, c'est merveilleux. Quand tu l'as tellement attendu, tu te dis, enfin, avec tout ce qui t'est arrivé avant, entre, voilà, sa leucémie, le fauteuil roulant, passer par la PMA, tu te dis, enfin, le bonheur, quoi.
Et alors, comment se passe cette grossesse ?
Mais écoute, au démarrage, déjà, je n'ai pas eu de nausée. Je suis chanceuse. Voilà, j'ai pas eu comme certaines femmes ou vraiment malade au démarrage. D'ailleurs, ça perturbe parce qu'on se dit bah ouais, mais j'ai rien, j'ai pas de symptômes, c'est bizarre. On sent rien, on sent pas le bébé bouger au début. Donc c'est vrai que c'est hyper stressant. Je pense qu'on stresse plus que pour des essais, on va dire naturels ou j'en connais qui ont fait juste un test pipi et elles prennent rendez-vous pour la T1 quoi, c'est tout. Et pendant ce temps-là, elle ne se pose même pas la question de faire une prise de sang ou quoi que ce soit. Alors que nous, on fait des prises de sang toutes les semaines pour voir que le taux évolue bien. Enfin, c'est très stressant. Et j'ai eu en plus, c'était 8 SA, donc la veille de mon anniversaire, en fait, j'ai eu des pertes de sang. Et là, je pensais l'avoir perdu. Et donc, on a filé aux urgences. Ils n'ont jamais su nous expliquer le pourquoi. Il n'y avait pas de décollement ou rien de particulier. Mais pour moi, c'était la fin de chez la fin. Je me suis dit, c'est pas possible. Et je pense que c'est parce que j'avais couru après le train pour rentrer chez moi le soir. Par rapport au travail, je prenais le train. Et j'avais un peu couru et je pense que fallait pas. Donc ça a été la grosse frayeur. Mais après, très bien. Bon, à part que j'avais toujours mal au ventre suite à l'hyperstimulation. C'est-à-dire que mes ovaires faisaient, attention, ça va faire peur, 12 cm chacun. Ça ressemble à des gros pamplemousses quand même. Donc, ça prend beaucoup de place dans le ventre et ça fait déjà mal. Donc, en fait, dès que j'étais sortie de l'hôpital, dès le démarrage, j'avais déjà acheté des pantalons de grossesse, en fait. Parce que mon ventre, il était déjà bien gonflé. Et en fait, il n'aura jamais dégonflé. Quoi. Finalement. Donc, voilà. En plus, c'était chouette parce que du coup, il y avait Noël. Après, qui arrivait et j'étais à peine à 3 mois. Mais du coup, on l'a annoncé à tout le monde pour Noël, quoi. C'était magique, quoi. Donc, tout le monde était content. Et c'est là qu'on a annoncé à tout le monde qu'on était passé par fécondation in vitro. Là, du coup, voilà, c'est là qu'on a pu raconter notre parcours. Et les gens, en fait, s'y attendaient pas du tout, quoi. Et c'est là qu'on apprend que certaines autres personnes passent par ça. C'est à ce moment-là que les langues se délient et qu'on se rend compte que on n'est pas forcément toute seule, quoi.
C'est fou ce tabou à ce moment-là. C'est dommage, tu te dis que tu aurais pu partager ça finalement avec tes proches.
Ben oui, mais c'est vrai que en fait, n'importe qui, quand on essaye de faire son premier enfant, on ne le dit à personne. C'est la surprise. On n'a qu'une envie, c'est de faire la super révélation avec les gratte-gratte, je ne sais pas, le t-shirt, enfin, ce qu'on veut, quoi. Oui. Donc, tu ne le dis pas. Et j'avais juste des copines à l'école, parce que j'étais en reconversion professionnelle, donc j'avais des copines à l'école à qui voilà, j'arrivais à en parler, mais elles étaient très, très jeunes. Donc, elles n'étaient pas mariées, enfin, elles n'étaient pas encore dans ce délire d'enfant, quoi. Alors que voilà, par rapport, vous verrez mon parcours, mais maintenant c'est différent. J'en parle à tout le monde, en fait. Tout le monde sait que je suis en essai et tout ça, quoi. Mais le premier, c'est vrai que je pense que voilà, c'est pas que c'est tabou, c'est juste qu'on veut garder la surprise pour ses proches.
Oui, bien sûr. Mais je parlais plus de la personne qui elle, était passée par une FIV et qui t'en avait pas parlé, même après.
Et oui, parce que finalement, voilà, c'était quelqu'un de ma famille. Et elle aussi, elle gardait le secret. Enfin, voilà, elle me l'a dit en douce après, parce que voilà, elle essayait de son côté en surprise aussi, quoi. Mais ouais, c'est important. En tout cas, c'est vrai que si on arrive à trouver des gens à qui on peut en parler pendant le parcours, c'est vrai que ça fait du bien de se sentir pas seule et de pouvoir échanger avec des personnes qui vivent la même chose que nous, quoi.
Oui.
Bah, à l'époque, c'était sur les forums. J'avais un forum où, voilà, on était plusieurs à être en protocole sur le même mois et du coup, on se tenait au courant. Et puis, voilà, quoi. J'avais trouvé voilà, une petite dizaine de filles qui étaient dans le même cas que moi. Et puis, bah, ça permettait quand même d'échanger un petit peu, quoi.
Et alors, est-ce qu'il y a un moment dans ta grossesse où tu as pu être un petit peu plus sereine? Est-ce que vous avez demandé à connaître le sexe de ton bébé?
Alors non, le sexe du bébé, ça a été la surprise jusqu'à la fin. Ça tenait vraiment à cœur à mon chéri de ne pas savoir, lui s'en fichait. En fait, il me disait, non mais peu importe en fait, ça va être trop bien d'avoir la surprise à la fin. J'étais, ah, mais t'es fou, moi je veux savoir. Et puis bon, par amour, je me suis dit, bon allez, on va se laisser la surprise. Donc on l'a su qu'à la naissance.
D'accord.
Par contre, ouais, une grossesse sereine, pas du tout. Parce que bon, déjà, les trois premiers mois, du coup, mal au ventre suite à l'hyperstimulation, donc c'était pas hyper agréable. Et en fait, est venu après, du coup, l'écho T1, donc la première. Et là, ça a été un peu la douche froide parce que, bon, on était contents, on entendait le cœur et tout ça. Sauf que la sage-femme, donc, qui faisait l'écho, en fait, a eu un doute au niveau... Alors, il y a le cordon ombilical, il doit y avoir... C'est pareil, à force, les années remontent. Il doit y avoir... je crois, deux artères, une veine, un truc comme ça. Et il n'y avait qu'une artère, une veine. Il manquait un truc. Ce n'était pas grave en soi, mais souvent, c'est signe d'autre chose. Donc déjà, tu te dis mince. Et elle a eu un doute sur le cœur. Elle trouvait qu'il y avait un ventricule du cœur qui était plus petit que l'autre. Donc, du coup, voilà, ça nous a dit que voilà, là, il fallait aller voir un spécialiste. Alors, ça fait un peu flipper quand on te dit un spécialiste pour que voilà, il puisse vraiment analyser avec des meilleures machines le cœur et puis après, du coup, tous les autres organes pour être sûr voilà, que tout va bien. Sauf que tu te dis tout de suite, oh là, il y a un problème. Et puis, à la sortie du rendez-vous, tu prends rendez-vous, c'est 15 jours. 15 jours où tu dois attendre. Pour savoir si oui, non, il y a un problème. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? On ne te dit rien, quoi. Donc, ça n'avait pas l'air d'être très grave, mais il y avait quelque chose, quoi. Donc, ça a été le début un peu de l'enfer où tu enchaînes les rendez-vous pour faire des échos. Je pense que j'ai eu des échos toutes les trois semaines jusqu'à la fin de la grossesse.
Oui.
Pour suivre l'évolution. Donc, on a eu, du coup, donc 15 jours après, on a vu deux spécialistes, un cardiopédiatre, voilà, et après un autre monsieur qui lui regarde tous les organes, qui est vraiment spécialisé sur la totalité des organes. Et donc, c'est là qu'on nous apprend qu'en effet, il y a une malformation au niveau du cœur. Alors, pas grave, grave. Mais qu'il faut donc suivre sur le long de la grossesse. En fait, en effet, il y avait un ventricule qui était plus petit, Et puis, il y avait, en fait, au niveau de l'aorte, donc la grosse artère qui est au niveau du cœur, qui avait un endroit où elle était rétrécie, en fait. Donc, ça a empêché un peu le passage du sang de se faire. Et après, bon, sur les autres organes, tout allait bien, quoi. Donc, on nous annonce que va falloir suivre ça et voir, parce que sans doute à la naissance, il faudra faire une opération du cœur. Donc là, tu te dis, le cœur, quand même...
Chose qui se fait, une opération qui est pas banale, mais qui arrive plus souvent qu'on ne le pense, non ?
Oui, parce qu'on nous a dit... En fait, ça s'appelle une cardiopathie congénitale et on nous a dit que c'était un enfant sur 100. En fait, un enfant sur 100 a une petite malformation du cœur. Mais dans la plupart du cas, ça se rétablit tout seul avec la croissance. Enfin, il n'y a même pas besoin d'opération finalement, ou des toutes petites opérations. Donc, c'est vrai que les médecins sont restés quand même assez vagues. Alors, avec le recul, je ne sais pas si c'est nous qui ne nous sommes pas assez renseignés non plus. C'est vrai que je ne sais pas trop. On a eu les infos au compte-gouttes. Et puis aussi, c'est pas facile quand c'est tout petit, au démarrage, de bien voir tous les organes. Donc, c'est plus le bébé grossit et plus ils arrivent à être plus précis aussi dans le diagnostic. Donc, voilà, arrivé à la fin de la grossesse, on savait qu'il y aurait besoin d'une opération à cœur ouvert. Donc, c'est quand même voilà, une big opération. Mais que ça se remet très bien, que les enfants après, derrière, vivent très bien. Il y a juste un suivi, mais... En gros, c'est réparable. Sauf qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Ils ne nous ont jamais expliqué l'opération, comment ça... Même, je te parle là de cœur ouvert, mais je suis même pas sûre qu'ils nous l'aient dit pendant la grossesse, que c'était comme ça que ça se passait. Il y avait une opération du cœur, mais voilà. Et on ne savait pas si c'était dès la naissance ou un petit peu après. Donc, on nous avait dit entre 0 et 2 mois, quoi. Donc, ça a été... très difficile de s'impliquer dans la grossesse sur le fait que du coup, tu ne sais pas ce qui va se passer du moment où tu vas accoucher. Est-ce que tu vas rentrer à la maison avec bébé et après, tu vas repartir faire des examens ? Est-ce que tu vas rester sur place ? Est-ce qu'il n'y a que bébé qui va rester sur place et toi, tu rentres ? Et ça, ils ne pouvaient pas le dire parce qu'ils nous disaient qu'ils pourraient le savoir que le jour de la naissance. Une fois que réellement bébé est sorti. Parce que ce n'est pas facile de faire une écho à travers le ventre de la maman pour aller voir dans bébé. Voilà, ça sera quand même plus simple de le faire directement sur bébé quand il naît, quoi. Donc, ça gênait pas pour faire fonctionner son cœur à la naissance. Enfin, voilà, il pouvait quand même sortir de mon ventre et vivre. Hein. C'était pas un souci. Mais c'est vrai que du coup, pendant toute la grossesse, t'as peur, quoi. T'as vraiment peur parce que tu sais pas comment ça va se passer. On pense jamais à perdre le bébé. On se dit que voilà, ça va être très compliqué l'opération... Moi, j'étais là, mais attends, mais pour le boulot, comment je vais faire pour reprendre le boulot ? C'est pas possible. Je sais même pas quand est-ce que l'opération, ça sera. Enfin, tu peux pas du tout anticiper la suite. Donc, du coup, on avait décidé que mon chéri avait quitté son travail au même moment où moi, j'avais été en congé maternité. Et il devait se former à la maison et garder bébé à la maison. Voilà, comme ça, il n'y avait pas de problème de crèche ou quoi que ce soit. Et si jamais il y avait des soins à faire, on aurait été là, quoi. Donc voilà, après j'ai eu une grossesse très bien, j'ai pas eu de douleur, après voilà, c'est une belle grossesse quand même, ça a été surtout le stress en fait, parce que c'est quand même assez anxiogène on va dire. J'ai eu une amniocentèse quand même au cours de la grossesse pour vérifier que c'était pas génétique et qu'il n'y ait pas une trisomie ou quelque chose de caché derrière. Et il s'avère que non, tout va bien au niveau génétique, donc c'est juste coup de pas de chance. Bon, on s'était dit qu'il n'y aurait pas de problème, du coup, pour en tout cas d'autres enfants, ça gênait pas pour la suite, quoi. Donc voilà, donc la grossesse se passe quand même bien. Et par contre, bébé est coquin parce qu'il est en siège. Ah, évidemment, sinon, c'est pas drôle. Et il était quand même de petit poids, il n'était pas gros. Donc bon, suite à tout ça et du fait que je ne peux pas avoir de péridurale, parce que j'ai des plaques dans le dos, en fait, j'ai une scoliose plus jeune. Donc, je peux avoir l'arachie, mais je ne peux pas avoir la péridurale. Donc, on s'est dit, accoucher par voie basse, ça faisait beaucoup d'éléments. on n'a pas trop voulu aussi fatiguer bébé avec son cœur. On s'est dit, ça va l'épuiser, les contractions, tout ça. Donc, on a programmé une césarienne 15 jours avant le terme. Donc, j'ai accouché à 38 plus 5. Donc, voilà, on va dire accouchement normal, quoi. Enfin, pas prématuré, rien.
Et pourquoi 15 jours avant le terme ?
Ben parce que pour éviter que bébé se déclenche tout seul, en fait. Parce que si bébé se déclenchait tout seul, ça risque de finir en césarienne d'urgence, en fait. Donc, on a préféré voilà, dire 15 jours avant pour voilà, être sûr que déjà mon obstétricienne soit là, qui était adorable, qui avait suivi toute la grossesse, et que en néonate, du coup, aussi, tout soit prêt. Parce que comme on ne savait pas trop comment ça allait se passer, il fallait aussi qu'eux, au niveau à l'hôpital, ils puissent s'organiser pour accueillir bébé.
OK.
Voilà. Alors, c'est vrai, je dis toujours bébé. Je ne parle pas du sexe encore, parce que finalement, c'est vrai que pendant toute la grossesse, donc moi, on ne savait pas. Mais par contre, c'est vrai que ça, pour s'investir dans la grossesse, je trouve que ça a été plus compliqué aussi. Parce que déjà, on ne savait pas comment ça allait se passer. On ne sait pas le sexe, donc on ne sait pas fille, garçon. Donc les vêtements, on n'en avait pas acheté. Alors, on essayait de prendre que des trucs unisexes pour tout le matériel et tout. Enfin, après coup, avec le recul, je me dis, mais en fait... je ne sais pas si je me suis vraiment plus investie que ça dans cette grossesse, en fait. Sur le coup, j'ai eu l'impression que oui. Mais là, maintenant, j'aurais une autre grossesse. Franchement, je ferais tellement différemment. Mais là, je ne m'étais même pas renseignée sur le portage, sur même les biberons. Je ne savais pas plus comment ça allait marcher. Enfin, c'est assez dingue.
On est beaucoup à faire comme ça. Hein.
Ouais.
Mais oui. Et puis, on en parle aujourd'hui. Mais oui. On en parle aujourd'hui de plus en plus, mais...
C'est ça aussi, je pense, ouais, parce que du coup, c'était il y a 3 ans. Donc, c'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ça, il y a beaucoup de choses qui se développent. Mais c'est vrai que, ouais, sur le coup, je ne m'étais pas trop renseignée ou après, quoi. C'était vraiment un peu surprise totale. Donc, du coup, nous voilà le jour de la césarienne. Donc, ça s'est super bien passé. Donc, j'ai eu une rachis. En fait, c'est ce qui me faisait le plus peur. J'avais peur d'être paralysée du dos, d'être handicapée en fauteuil roulant. Enfin, tu vois le truc. J'avais trop, trop peur de la piqûre de la rachis. J'ai rien senti du tout. Nickel. Césarienne, nickel. Et là, du coup, on découvre le sexe de bébé. Donc, il tend de bébé à mon chéri et lui demande « Alors, c'est quoi ?» Il fait « Une fille ?» Oui. C'est trop drôle. Donc voilà, on a une petite fille, j'étais juste trop heureuse parce que j'avoue que j'avais une petite préférence pour une fille. Mais j'étais persuadée d'attendre un garçon parce que quand tu vois les échos, ils te montrent pas, mais tu as toujours l'impression de voir un zizi quelque part. Hein. Alors qu'en fait, c'est de l'intestin, tu sais pas trop, mais j'étais persuadée que c'était un garçon. Donc du coup, on a eu notre petite Marie-Charlotte. Donc, du coup, il fallait choisir 2 prénoms. En plus, on avait changé le prénom du garçon, genre 15 jours avant la naissance. Enfin, c'est un peu le stress aussi, trouver le prénom. Et ce qui était assez rigolo, c'est que Marie-Charlotte, pourtant, on l'avait choisi au tout début de la grossesse, c'était le nom de l'infirmière qui nous avait reçue le soir des urgences. Quand j'ai saigné, au début de ma grossesse, elle s'appelait Marie-Charlotte. Et cette fameuse Marie-Charlotte était là le jour de l'amniosynthèse.
Ah.
Et je dis, mais c'est un signe ou quoi ? C'est fou. Donc, c'était assez rigolo parce que c'est quand même pas un prénom très commun, même si Marie et Charlotte, oui, mais Marie-Charlotte, voilà. Donc, voilà, donc on a eu notre petite Marie-Charlotte. Donc, pendant que mon chéri est resté avec moi pendant toute la césarienne, parce que du coup, j'ai fait une petite hémorragie à la délivrance, d'après ce que j'ai compris, où j'ai perdu 1 litre de sang. Donc, j'étais un peu dans les vapes et c'est lui qui me mettait le masque gazant, là, un peu. Donc, il a été avec moi tout le temps. Et après, dès que j'étais stabilisée, du coup, il est allé la voir. Hein. Et en fait, là, ils ont fait directement les examens. Donc, ils ont pu faire écho du cœur, machin, tout ça. Et là, en fait, c'est là qu'ils se sont aperçus que c'était plus important que ce qu'ils voyaient dans mon ventre. Que ça allait être une opération quand même plus importante. Et en plus, elle est née à 2,1 kg. Donc, c'est assez, d'après ce que je me renseigne, assez petit. Enfin, ça fait un petit bébé. Donc, du coup, on nous a dit que déjà, l'opération allait être compliquée sur un bébé de 3 kilos, on va dire normal. Donc, sur un bébé de 2,1 kg, c'était un peu plus compliqué. Donc, on a dû attendre quelques jours pour programmer l'opération, pour essayer qu'elle puisse récupérer de la naissance, essayer de prendre un peu de poids. Donc, je n'ai pas allaité. Bon, déjà, j'ai jamais été attirée par ça. Et puis, de toute façon, j'avais envie qu'elle mange. Donc, j'étais assise. En plus, je galère, moi, à donner le sein, Non, non, on va lui donner de suite ce qu'il faut. Sauf qu'elle a eu du mal à prendre le biberon. Enfin, c'était pas son truc. Hein. Donc, on a dû faire à la sonde. Enfin, bon, elle a été un peu chippie, quoi. Et puis, le fait d'accoucher un petit peu en avance, d'après ce que j'ai entendu aussi, les bébés sont plus calmes. On dirait qu'ils sont encore un peu endormis, en fait. Donc, elle n'était pas très vive, on va dire. Elle faisait que de dormir. Donc, pour manger, c'était compliqué. Et du coup, donc, je suis remontée dans ma chambre juste après, donc bon, salle de réveil, machin. Et 24 heures après, du coup, elle est descendue, elle, en réa néonate, pour être vraiment suivie au niveau de son cœur, pour être sûre que voilà, tout aille bien. Donc après, nous, on pouvait aller la voir quand on voulait. Hein. Du coup, on mettait en petite chaise et puis on m'emmenait dans sa chambre. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce que, en fait, t'as accouché, mais t'as pas ton bébé avec toi. Pour l'avoir dans tes bras, t'es obligée de demander l'autorisation. Parce qu'elle était branchée de partout, du coup elle avait des petits capteurs partout pour surveiller son cœur. Et donc je crois que c'est dès le lendemain, on a eu rendez-vous avec le chirurgien. Donc c'est là qu'on a pu caler la date de l'opération. Donc elle s'est fait opérer à 8 jours. Et donc pendant ces 8 jours, on l'a suivie en néonate. Et c'est là que le chirurgien nous explique concrètement comment l'opération va se faire. Et là tu flippes à mort, quoi. Parce que là, on t'explique que oui, c'est à cœur ouvert. Oui, ils vont devoir la descendre en température, le temps d'enlever le cœur, le remettre, le rebrancher, et après la remonter en température. Et là, tu te dis, mais ça, tout ça sur un petit bébé? Et en gros, il referme au-dessus du cœur que genre au bout d'un mois, quoi. Et tu te dis, ouais, donc ils nous ont dit, enfin, ça reste voilà, une opération très lourde. Qui normalement marche hein, et tout. Enfin, je connais une fille que j'ai connue sur Instagram qui a eu sa petite, du coup, qui a eu la même chose. Et elle va très bien, la petite. C'était très, très impressionnant comme opération, mais voilà, ça réussit, quoi.
Et comment tu vis, toi, ces 8 jours d'attente?
Déjà, le temps un peu de se remettre de césarienne, beaucoup de fatigue. Et en fait, on est vraiment dans l'attente. Je sais pas, il y a mon mari tout le temps avec moi parce qu'il dormait du coup avec moi dans ma chambre, donc heureusement qu'il était avec moi. Et puis on allait la voir le plus souvent possible, mais finalement on pouvait rien faire trop avec elle. On a dû lui faire un bain, tu parles, c'est juste la mouiller vite fait, on a pu partager ça quand même. Mais finalement on est juste à côté et on attend, quoi. On attend, on stresse, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Moi, je suis en train de me renseigner sur prolonger le congé maternité pour s'occuper d'un enfant malade. Enfin, voilà, on essaye de s'organiser comme ça. Ce qui a été dur, c'est que du coup, la famille ne peut pas venir. On n'était pas en période Covid. Hein. Du coup, comme 24 heures après l'accouchement, elle est partie en néonate. En néonate, il n'y a que les parents qui ont le droit d'y aller. Donc, en fait, comme toute notre famille habite loin, à Orléans, du coup, et que nous, on est à Toulouse, y a eu que ma belle-sœur qui est venue la voir dès que j'ai accouché, et une copine, et deux copines, c'est tout. Donc, ça a frustré tout le monde de ne pas pouvoir venir nous voir à la maternité, tout ça. Enfin, du coup, on avait dit à tout le monde, non, mais ne vous embêtez pas, vous viendrez quand elle sera sortie, quoi. Ça ne sert à rien de venir me voir, moi, faire beaucoup de route pour finalement, le temps qu'elle se fasse opérer et tout ça, on va en avoir pour très longtemps. Donc, on faisait des petits visios, des petites choses comme ça. Mais en fait, t'attends que le temps passe, quoi. C'est, c'est un peu un temps coupé, quoi. Enfin, t'es complètement ailleurs. Et donc, t'appréhendes de fou l'opération, mais on te dit que ça va marcher, quoi. Que ça va marcher, mais tu flippes quand même à fond. Et donc, le matin de l'opération, du coup, donc on est allé la voir à 6h du matin parce qu'il l'emmenait au bloc à 8h. Donc voilà, le temps de la préparer, tout ça, tout ça. Et du coup, l'opération durait toute la journée et on savait qu'ils allaient nous appeler le soir vers 20h, quoi. Donc juste horrible cette journée, l'attente, tu sais pas comment ça va se passer. Donc du coup, on est allé, on est croyant mais pas pratiquant, mais on est quand même allé à Lourdes. C'est pas trop loin de Toulouse, on s'est dit, il faut qu'on s'occupe. Donc on est allé à Lourdes, on a quand même allumé une petite bougie, on s'est dit, allez, ça va lui porter chance, tout ça. Et du coup, sur la route du retour, vers 19h, je crois, ils nous ont appelé pour nous dire que il y avait eu quelques petites complications et que du coup, ça allait durer un peu plus longtemps, l'opération. Donc, on est rentré à la maison tranquillement et ils nous ont appelé à 22h30. Donc là, tu flippes, hein. te dis un peu plus longtemps, mais là tu es sur ton canapé, t'attends. Et hélas, bah, on t'appelle et puis bah, on te dit que bah, c'est pas réveillé de l'opération, quoi. Et là, t'as ton monde qui s'effondre, quoi. Parce que tout se passait bien depuis le début. Enfin, jamais on a pensé au fait qu'elle pouvait décéder, quoi. Mais jamais. Enfin, je sais pas, tu tombes de nu. Pourtant, enfin, oui, ils nous avaient dit qu'il y avait un risque, tout ça, mais tu t'imagines même pas le truc. Donc, bon, le chirurgien, il était en larmes. Enfin, bon, c'est quand même assez particulier parce que, ben, du coup, on te demande de venir sur place. T'es reçu par le chirurgien, la cadre du néonat, pour t'expliquer comment ça s'est passé, quoi. Tu vois le chirurgien qui est au bord des larmes. Tu te dis, enfin, voilà, tu sais qu'il a tout fait. Donc, bah, en soi, enfin, voilà, ils ont réparé le petit cœur. Mais quand ils ont voulu relancer, on va dire, la machine, quoi, bah, ça n'a pas... Là, c'est parti en cacahuète, quoi. Ils n'ont pas réussi à la réanimer. Et puis, bah, ça ne sert à rien de s'acharner non plus pour qu'elle soit après handicapée à vie. Enfin, bon. Et le chirurgien avait ses filles qui s'appelaient ses petites filles, Marie et Charlotte. Donc, enfin, bon. Comment te dire? Non, ouais, et puis son nom de famille, il ressemblait énormément au nôtre. Enfin, bon, il y a eu un truc où je pense qu'il l'a pris aussi très, très à cœur. Et donc là, c'est... Bah, tu ne sais même pas quoi faire, en fait. Tu te dis, mais... Qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu fais quoi? Tu comprends rien, en fait. T'es complètement... On te parle obsèques, tout ça. Tu te dis, mais attends, on se calme. Je sais pas. Il est minuit, tu sais. T'es à l'hôpital. Tu dis, ben, je sais pas. Donc, bon, bah, après, t'es obligé de réfléchir si tu l'enterres, tout ça. Enfin, voilà. C'est des trucs que jamais de la vie, c'est des trucs que tu vas penser, quoi. Donc, du coup, bon, on a quand même choisi de l'enterrer pour avoir quand même un petit lieu à elle et qu'on puisse aller la voir quand on voulait. Donc, ça fait bizarre, t'as 30 ans et tu vas acheter ta tombe, tu sais. Parce que du coup, on s'est dit, bah, on va acheter nos places et puis comme ça, on sera tous les trois réunis un jour, quoi, tu vois.
Ah, bah oui.
Bah oui, parce que du coup, on voulait pas prendre une place que pour elle. On s'est dit, bah ouais, mais si nous, quand on meurt dans longtemps, on va être loin d'elle, tu vois.
Oui.
Donc on a pris une double place où du coup comme c'est un petit cercueil, bah on pourrait être tous ensemble plus tard, quoi. Mais bon, voilà, tu te retrouves du jour au lendemain à devoir gérer des obsèques, trouver le tombeau, comment tu vas faire. Enfin, c'est un truc de fou. Moi, j'ai pas eu de décès dans ma famille à devoir gérer, genre je sais pas, des parents que j'ai perdus ou une grand-mère que j'ai dû m'occuper des choses, rien. Donc tu sais pas comment ça se passe, quoi. Donc, du coup, elle a été enterrée, je crois, à peine une semaine après. Donc, en fait, tu es dans un état second, quoi. Je sais pas, tu réalises pas, tu as l'impression que tu rêves. C'est vraiment bizarre comme sensation et tu te renfermes beaucoup sur toi, quoi. Du coup, tu rentres à la maison, tu as toutes les affaires de bébé. Et encore, on a de la chance parce qu'on était, en petite location parce qu'on faisait construire la maison. Donc, on n'avait pas trop investi chez nous, mais en gros, tu as toutes les affaires de bébé, tu rentres et tu fais, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Enfin, tu sais, tu as la vie, je ne sais pas, c'est trop bizarre. Tu as tout qui s'arrête d'un coup et tu dis, bon, bah, va falloir que je reprenne le travail, faut qu'on reprenne une vie. Enfin, c'est trop bizarre. Donc, bon, j'ai accouché en juin, donc ça, bon, c'était début juillet, donc c'était les vacances d'été. Donc, on a essayé de partir pour se changer un peu les idées. Et puis, au bout d'un moment, tu pètes un câble à être à la maison parce que bah, tu tournes en rond, tu penses qu'à ça. En plus, il y avait mon mari, heureusement, donc on était deux quand même. Donc après, j'ai appelé mon patron et j'ai dit, est-ce que je peux reprendre plus tôt que prévu, quoi. J'ai pas voulu prendre mon... Tu peux prendre ton congé maternité jusqu'au bout. J'ai dû reprendre 15 jours plus tôt parce que bah, j'en pouvais plus, je pétais un câble à la maison, quoi.
Ouais, bah oui.
Donc tu essayes de reprendre une vie pseudo-normale, mais... Tu retournes au boulot. En plus, j'étais RH, donc j'avais des salariés sous moi. Donc, toutes mes salariées, elles étaient « Alors ?» Et toi, t'es là « Ben non. Non. » Et là, ça fout hein, le cafard à tout le monde. Enfin, genre, ça, c'est compliqué parce que, en fait, c'est toi qui es triste, mais tu rends les gens tristes. C'est pas facile comme truc. Puis, il y a des fois, ça te revient longtemps après, en fait. Tu te dis, tu reprends le travail, allez, pendant une semaine, ça va être compliqué, le temps que tout le monde soit au courant. Sauf qu'en fait, j'avais des salariés que je ne voyais pas souvent. Donc genre 3 mois après, elle dit « Ah Flavie, ça va et tout alors, la petite ?» Ouais, c'est chaud quoi. Donc c'est compliqué. Et puis t'as l'impression que ta vie, tu sais, elle a fait reset. Et tu repars un an en arrière. Genre il s'est rien passé. Voilà.
T'as été suivie par un psy à ce moment-là ou pas ?
Pas du tout. En fait, à l'hôpital, quand ça t'arrive, on te dit que oui, si tu veux, il y a quelqu'un qui peut venir et tout. Sauf que sur le coup, en fait, tu t'enfermes sur toi-même. T'as envie de parler à personne. Enfin, voilà, t'as envie d'être seule, quoi. Et l'hôpital m'a jamais... Enfin, la maternité m'a jamais rappelé ou quoi que ce soit. Donc non, sur le coup, pas du tout. Le seul truc que j'ai fait, c'est du coup, je me suis inscrite sur Instagram. J'ai découvert Instagram. J'ai découvert le hashtag Mamange et j'ai fait connaissance avec beaucoup de femmes qui ont du coup perdu leur enfant. Et ça a été ma thérapie, en fait, de parler avec des filles qui connaissaient ce par quoi je passais, qui ont pu me conseiller sur des choses. Enfin, voilà, parce que la famille, ils ne savent pas trop. Hein. Ils sont tellement malheureux pour toi que, bon, ils n'ont pas forcément les bons mots, mais parce qu'ils ne savent pas. Donc, heureusement que j'ai trouvé Instagram et voilà, je me suis fait de bonnes copines. Mais ouais, le plus dur, c'est de retourner à ta vie de tous les jours, quoi.
Comment tu, petit à petit, tu te reconstruis ou tu avances après cette épreuve ?
En fait, moi, je me plonge littéralement dans le travail. J'ai toujours adoré mon travail. Déjà, je voulais reprendre absolument après le congé maternité. Je voulais pas prendre de congé parental au départ. Enfin... Pour moi, voilà, c'était vraiment mon travail avant tout, malheureusement, à l'époque. J'ai changé maintenant avec tout ça. Donc, du coup, c'est boulot, boulot, boulot. Et comme ça, ça permet de faire passer les journées plus vite et puis d'oublier, quoi. En fait, le fait de reprendre ta vie, t'as pas le choix, t'es obligé d'avancer, quoi. Ce qui est le plus dur, c'est quand tu sors dehors et que tu vois des femmes enceintes, des femmes avec des bébés. Voilà, où ça te rappelle tout ça.
Même tes proches, j'imagine que tu as des amis qui ont commencé à avoir des bébés autour de toi.
Alors, j'ai eu beaucoup de chance quand même. j'ai pas beaucoup de proches qui ont vraiment des enfants. Elles sont plus jeunes et du coup, non, j'étais un peu dans la seule à être dans ce cas-là. Par contre, oui, j'avais mon frère qui, lui, avait déjà un petit. Et quand nous, c'est arrivé, je me doutais qu'ils allaient essayer le deuxième, quoi. Mmh. Donc, je leur avais dit, je fais surtout, faut pas que ça vous bloque. Enfin, je veux dire, attendez pas que je retombe enceinte, hein, parce que sinon, j'ai déjà mis longtemps à tomber enceinte, donc m'attendez pas, enfin, voilà, quoi. Mais on avait la chance, on va dire, qu'on habite loin. Donc, du coup, voilà, même quand elle est tombée enceinte, tout ça, j'ai pas vécu ça au quotidien, tous les jours. Voilà, j'ai pu me mettre un peu dans ma bulle, quoi. Mmh. Et par contre, oui, j'ai été voir une psy au bout de 6 mois.
D'accord.
Parce que du coup, après, tu avais les fêtes de Noël. Noël, ton anniversaire, enfin voilà. C'est des dates... le premier Noël, c'est juste l'enfer. Voilà, c'est des dates, en fait, comme ça. Donc, Noël, anniversaire, fête des mères. Et après, son premier anniversaire... Voilà, des dates un petit peu importantes qui font que ça te rappelle tout ça, quoi. Et le plus dur pour moi, ça a été aussi le fait que j'ai une césarienne. Parce que malgré que je l'ai très bien vécu, assez bien rétabli tout ça, en fait, tu vois que ça. C'est-à-dire, tu peux pas passer à autre chose. À chaque fois que tu t'habilles le matin, à chaque fois tu la vois et à chaque fois, ça te rappelle tout ça, quoi. Ça, c'était le plus dur. Parce que mon mari, lui, il a réussi à... plus facilement à retrouver sa vie d'avant, on va dire, parce qu'en soi, on a rangé les affaires de bébé. J'ai pas mis longtemps. Hein. Je me remis tout ça dans des cartons et puis voilà. Mais moi, j'avais ça qui, voilà, tous les jours, ça te rappelle ça, quoi. Et en plus, avec la césarienne, t'es obligé d'attendre 1 an pour retomber enceinte.
Ah oui.
Et là, en fait... Dès le début qu'on l'a perdu, j'avais déjà envie de repartir dans ce processus, quoi.
Ah oui ?
J'avais envie d'un autre enfant, en fait. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas m'arrêter sur la mort, en fait. Je veux donner la vie, quoi. Et là, t'es frustrée de fou parce que tu te dis, non, en fait, tu peux pas. T'as pas le droit. C'est ça qui a été vraiment très compliqué parce que bah, du coup, tu l'as déjà attendu pendant longtemps et tu l'as perdu. Et en plus, tu ne peux pas recommencer, quoi. Donc, bah, on a repris 10 mois avant. J'ai réussi à carotte 2 mois. La maline. Non, ma cicatrice était très belle. Donc voilà, après, bah, on est reparti et c'est ça qui m'a fait avancer, quoi. Histoire d'essayer de penser à l'avenir et de reconstruire quelque chose, quoi.
Donc, la nouvelle FIV.
Nouvelle FIV. Alors, du coup, il nous restait des embryons congelés.
OK.
De l'essai de Marie-Charlotte, du coup. Donc, il nous restait 3 embryons. Donc, on a pu juste avoir les transferts voilà, de ces 3 petits embryons, donc sur des cycles différents. Hein. Mais ça nous a pris, voilà, on va dire, la fin de l'année, enfin avril, juin et octobre. Et bon, ça n'a pas tenu. Alors, c'était dur parce que du coup, c'est vrai que j'étais ah ouais, c'est un peu la même portée que Marie-Charlotte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça faisait vraiment des vrais frères et sœurs. Enfin, c'est bête, hein, mais bon, j'avais vraiment envie qu'un des 3, enfin voilà, marche. Et ben non, du coup, donc là, on s'est dit, bon, on va être obligé de recommencer encore. Après, c'était le Covid. Hein. Surprise, surprise. Et je devais reprendre, ben, je ne sais plus, le Covid, c'était genre le lundi qu'on a tous été confinés. Et moi, je devais reprendre le mardi.
Donc là, c'est mis en stand-by.
Donc après, tu repères encore 6 mois.
Ah là là, oui.
Mmh. Ouais, ça a été compliqué. Et puis bon, ben là, comment dire, comme je te disais, les Noëls... Donc, 6 mois, ça a été compliqué. J'ai eu voilà, une baisse de morale. 1 an, baisse de morale. 1 an et demi, l'enfer. Ben, 1 an et demi, c'était le 2e Noël. Et moi, j'étais persuadée que c'est bon, que je serais enceinte à ce moment-là, quoi. C'est bon. Et mon frère a eu son 2e en novembre. Donc, c'était voilà, juste avant les fêtes. Enfin, bon, c'est une petite fille. Donc, du coup, tu te dis... Enfin, voilà, ça te rappelle beaucoup de choses. Donc, voilà, il y a des moments comme ça où tu te dis, ouais, mais quand est-ce que ça va passer? Quand est-ce que... C'est bon, je vais avancer, je vais pouvoir ne plus pleurer, quoi.
Ouais.
Bon, il ne faut pas se mettre la pression, hein, ça vient quand ça vient. Hein. Mais du coup, j'ai essayé 3 psys quand même différentes. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, bon, allez, je vais voir une psy. Tout le monde me dit qu'il faut aller voir une psy. Mais bon, je n'ai pas réussi à trouver quelqu'un qui puisse vraiment m'accompagner comme il fallait, qui s'y connaisse, en fait. Donc, ça a toujours été, en fait, Instagram qui m'a portée depuis le début. Au fur et à mesure, tu découvres plein de filles qui, soit ont perdu leur enfant, soit qui sont en parcours PMA.
Oui.
Donc, ça te booste. Enfin, j'ai l'impression de trouver plein de copines qui vivent la même chose que toi. Donc, c'est chouette. Et c'est vrai, ce fait de vouloir me remettre dans les essais bébés, bah, c'est là que je me suis aperçue, quand t'es en essai bébé, il n'y a rien pour toi. Tout est pour la femme enceinte. En fait, tu sors d'une période où la grossesse, tu te fais plaisir, des vêtements pour toi, pour bébé, de la déco, machin et tout. Et puis après, tu redeviens bah, rien. Mmh. C'est assez bizarre comme truc, surtout quand ça s'enchaîne et que tu n'as pas de bébé dans les bras, en fait. Donc, tu repars vraiment à zéro. Et là, j'ai voulu bah, me créer des trucs pour avancer, pour que ça soit un peu plus fun, on va dire. Et c'est pour ça que bah, j'ai créé en fait une petite boutique en ligne du coup pour les femmes en essai bébé, donc qui s'appelle Baby Hope, et je l'ai ouvert pour les 1 an de Marie-Charlotte. Mmh. C'était vraiment mon petit truc où je me suis dit bah voilà, il y aura un truc qui restera toute ma vie pour elle. Donc voilà, bah, je me suis plongée dans le boulot.
Donc t'as démissionné? Voilà.
Non, je suis restée. Donc la journée, je travaille en tant que RH. Et le soir et les week-ends, j'ai créé ma petite entreprise. Bon, au début, j'ai fait ça pour me changer les idées. Je ne pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur. Donc là, dans à peine 3 mois, je vais quitter mon boulot.
Wow.
Voilà, enfin. Donc en fait, grâce à Marie-Charlotte, j'ai vraiment pu évoluer et faire quelque chose que j'aime. Ça y est, je pense enfin à moi et plus juste au boulot. Là, Baby Hope, c'est vraiment du plaisir, quoi. C'est pas, je fais des heures à plus les compter. Enfin, voilà, je donne ma vie à mon patron, quoi.
Donc là, tu proposes quoi avec Baby Hope?
Eh ben, du coup, c'est des petits trucs pour que ça soit un peu plus fun. C'est-à-dire, par exemple, des petites cartes étapes. Pendant la grossesse, je m'amusais à prendre des photos de mon ventre tous les mois, tu vois, quand il grossissait, tout ça. Et donc, bah, là, j'ai des cartes pour tout ton parcours, c'est-à-dire ma première piqûre, mon rendez-vous gynéco, mon échographie, mes échographies pendant la PMA, mes traitements, enfin voilà, tout plein de petites choses comme ça qui permettent en fait de faire un album photo pour bébé plus tard. Parce que par exemple, pour Marie-Charlotte, j'avais fait quelques photos et j'ai fait un album.
D'accord. Et dans ces cartes étapes, tu vas jusqu'au deuil s'il y en a un ?
Non. Non, parce que j'essaye que ça reste quand même assez positif. Mais par contre, voilà, il y a cette façon de commander des cartes personnalisées.
D'accord.
Donc après, voilà, je sais que j'en ai fait pour des mamans qui ont eu leur deuxième enfant et qui ont créé des petites cartes. Bah, par exemple, moi, je pourrais créer « Marie-Charlotte va être grande sœur ». Tu vois, des petits trucs comme ça qui permettent d'inclure le premier bébé. Mais bon, voilà, c'est des choses comme ça. Ça peut être des bouillottes pour les douleurs de règles, pour que ça soit moins douloureux. Il y a de la lithothérapie, donc aussi donc des pierres, hein, pierres de lune, qu'on connaît beaucoup sur la fertilité, qui peuvent accompagner. Moi, j'ai retrouvé mon refuge aussi un peu là-dedans. Il y a des carnets type bullet journal, tu sais, pour raconter ton histoire. En fait, c'est beaucoup de choses pour... garder une trace de ce que tu vis pour raconter l'histoire à bébé plus tard et pour que ça soit moins dur de ton côté, quoi. Donc, voilà. Et sur Instagram, après, je fais beaucoup de lives pour interviewer, comme toi, tu fais avec le podcast. Hein. Moi, je le fais en live sur Insta pour parler de plein de sujets autour des essais bébés.
Et alors, toi, c'est quoi la prochaine étape pour toi ? Comment tu te sens déjà aujourd'hui ? Est-ce que
Là, je suis dans une phase où je suis en train de vendre toutes les affaires de Marie-Charlotte. Tu vois, c'est un peu ma grosse étape de deuil du moment. Donc, ça fait quand même plus de 3 ans. Hein. Bon, j'ai mis 2 ans pour faire son faire-part de naissance et décès. C'était un truc qui me chagrinait de ne pas avoir fait de faire part de naissance. C'est en fait, le faire part de naissance, ça prouve, je ne sais pas, c'est bête, mais ça prouve que le bébé est né, quoi. Donc, du coup, j'ai eu pareil aussi un moment où, au bout de 2 ans, finalement, j'ai fait un faire part et je l'ai envoyé juste à mes proches, très, très proches. Mais ça m'a permis d'avancer. Et là, je suis en train de vider toutes ces affaires, de les vendre. Parce qu'en fait, je vois que c'est dans mes placards depuis un moment. Et en fait, j'ai l'impression qu'en réfléchissant, que c'est comme si je l'attendais, en fait. Tu sais, que ce futur bébé, c'est elle qui va revenir. Enfin, tu vois, il faut réussir à, malheureusement, fermer ce chapitre et en ouvrir un autre. Mais ça vient avec le temps. Chacune avance à sa façon. Donc là, ça me fait du bien. Parce que du coup, ça me permet vraiment de me projeter sur autre chose. Et du coup, l'idée, c'est que l'argent de cette vente me permette de financer un van pour l'année prochaine, pour qu'on puisse voyager avec mon chéri. Donc du coup, l'idée, c'est que Marie-Charlotte va nous permettre de voyager et elle voyagera avec nous. Enfin, tu vois, c'est toujours pour essayer de garder toujours un petit peu d'elle avec nous, mais de pouvoir avancer, quoi. Et donner du sens à tout ça, quoi. T'as besoin parce que tu te dis, mais c'est pas possible, j'ai pas vécu tout ça pour rien. Donc maintenant, avec le recul, je vois que ça m'a permis de voir la vie différemment. Déjà, mon mari, quand il est tombé malade, ça nous a fait profiter beaucoup plus de la vie. Parce qu'on n'attend plus. Maintenant, si on veut faire un truc, on n'attend pas 6 mois pour le faire. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois. Donc on essaye d'organiser des choses comme ça. Et là, pour Marie-Charlotte, c'est plus sur le fait que, en fait, la vie, c'est pas que le boulot. La vie, c'est toi avant tout et pas les autres. C'est vrai qu'avant, je faisais beaucoup de choses pour finalement plaire à ma famille ou des choses comme ça. Mais bon, finalement, c'est ma vie. Donc, ça m'a fait avancer là-dessus. Et puis, maintenant, j'aide des femmes aussi, par mon long parcours un peu compliqué et chaotique.
Mais oui.
À ce que d'autres femmes qui vivent un peu la même chose que moi puissent avoir des réponses ou un peu de soutien, en tout cas. c'est toujours ça. Donc, prochaine étape, bah, c'est quitter mon travail et bah, reprendre les essais bébés, du coup. J'en serai à ma troisième FIV pour ce bébé 2. Voilà, j'ai déjà fait 2 FIV entières et donc je vieillis, hein, je fais qu'un embryon à chaque fois, donc ça va beaucoup plus vite. Ça me fait un peu peur et donc bon, bah là, on va reprendre que quand j'aurai quitté mon travail pour être beaucoup plus zen.
D'accord.
Voilà.
Parce que là, du coup, tu as 4 essais possibles.
Mais là, non, j'en suis déjà à la FIV 3. Donc, oui, il me reste la FIV 3 et la FIV 4, c'est tout. Il me reste plus que 2 essais. Et surtout que maintenant, je fais beaucoup moins d'embryons. Donc, si je fais qu'un embryon à chaque fois, bah, j'ai qu'un essai à chaque fois. Donc, en gros, en 2 cycles, ça peut être fini.
Il n'y a pas d'après ou il faut aller à l'étranger?
Alors, l'après, bah, forcément, je commence à y réfléchir parce que je me dis que ce n'est pas possible de ne pas avoir d'enfant du tout. Et le seul enfant que tu aies eu soit décédé, quoi. Donc, en France, tu peux demander une dérogation pour une 5e FIV. Mais il faut monter un dossier auprès de la Sécu avec ton gynéco. Donc, je pense qu'elle pourrait être acceptée vu qu'on a déjà une grossesse. Ça montre qu'en gros, mon corps fonctionne. Et après, bah, sinon, malheureusement, c'est le don. Enfin, c'est partir à l'étranger. Et bah, soit avec tes propres gamètes. Mais bon, en soi, si ça ne marche pas actuellement, je me dis qu'il faudrait peut-être penser à autre chose. Donc, en gros, après les solutions, bah, c'est soit tu peux adopter un enfant, donc c'est parcours d'adoption, soit bah, tu peux te diriger vers des dons. Donc, don de sperme, don d'ovocyte, don d'embryon. Tu peux adopter un embryon, soit un double don. Donc, tu adoptes et sperme et ovocyte et ils te fabriquent les embryons rien que pour toi. Voilà, donc c'est un peu... Bon, c'est pas trop. Pour l'instant, ça serait plus quand même sur du don. On partirait pas sur l'adoption d'un enfant. Parce que, voilà, c'est pour nous, c'est compliqué de se dire que peut-être pendant 3, 4, 5 ans, il n'y a rien qui se passe et d'un seul coup, on te téléphone et tu deviens parent. Genre, dans 15 jours, tu viens le chercher. Alors que presque, tu t'es habitué pendant 4 ans à ce que tu n'es pas l'enfant. Donc, du coup, c'est plus compliqué pour nous. Et c'est vrai que je veux vraiment reporter la vie, quoi. Je veux être enceinte. C'est vraiment pour avoir l'impression que c'est ton enfant, même si ce n'est pas tes gènes. J'ai besoin qu'ils sortent de mon ventre.
Ouais.
Donc, bon, on y réfléchit. Si jamais ça ne marche pas en France, je pense qu'on se dirigera vers ça. Mais c'est un sacré budget aussi. Donc bon. Voilà, c'est des projets en réflexion actuellement. Mais de toute façon, j'espère que voilà, ça marchera avant qu'on passe par là.
Exactement, je te souhaite vraiment de tout cœur que la prochaine FIV réalise ton rêve de devenir maman une nouvelle fois.
On ne peut pas être maudit toute notre vie, quoi.
Et oui, quel parcours.
À un moment donné, on va bien finir quand même pour être heureux, enfin à fond quoi. Je dis pas que je suis malheureuse dans ma vie de tous les jours, mais c'est vrai que, enfin ça va, on a eu assez de malheur, donc c'est bon.
Oui.
Ça serait bien un peu que la roue tourne et qu'on puisse aussi voilà avoir notre vie comme tout le monde quoi.
Bah écoute Flavie, vraiment du fond du cœur, je te le souhaite. Merci d'avoir partagé ça, ton histoire avec nous.
Avec plaisir. Ça fait du bien toujours d'en parler. Voilà, ça permet de la faire vivre.
Bien sûr.
Tout le monde connaîtra Marie-Charlotte.
Et ton courage.
Bah, si je peux voilà, inspirer d'autres femmes et se dire que bah, voilà, 3 ans après, j'arrive à en parler sans pleurer, à avoir le sourire et ne plus pleurer voilà, tous les jours. Oui, je vous promets, ça... Avec le temps, ça aide. On a toujours le cœur qui est brisé, mais on apprend à vivre avec. Et la vie est belle quand même, à part ça. Donc, merci de m'avoir laissé voilà, le temps de pouvoir m'exprimer, de raconter mon histoire. Et merci pour le podcast que tu fais. Parce que même moi, ça m'a aidé aussi sur de la réflexion, par exemple, sur l'adoption. Voilà, c'est des choses où ça m'aide beaucoup aussi pour la suite.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.